Ici Radio Grand Ciel pour notre studio de Châteaudun et notre émission Histoire et Mémoire. C'est Jean-Claude qui va interviewer Monsieur Ludovic Le Breton et c'est Henri qui est à la technique. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui donc Monsieur Le Breton qui est professeur d'histoire-géographie à Blois, mais qui connaît bien Châteaudun et qui va nous parler de l'histoire de la base aérienne de Châteaudun.
Oui, bonjour Ludovic. Donc, évidemment, nous avons parlé d'aviation, bien sûr, parce que Châteaudun, c'est une histoire d'amour avec l'aviation, parce que dès René Barrier, quand même, qui est quand même dunois, il s'est passé plein de choses pour après arriver à un développement extraordinaire avec la base. Donc vous allez dire comment on est parti de René Barrier pour arriver donc à cette base extraordinaire où les derniers avions, ces dernières années, décollaient de Châteaudun pour aller défiler au 14 juillet. Au-dessus de l'Arc de Triomphe.
C'est ça. Eh bien, effectivement, l'histoire de la base aérienne, elle commence bien avant la Seconde Guerre mondiale, bien avant les années 50. Ça commence, le premier acte, c'est 1912, 14 juillet 1912. Vous avez une fête de l'aviation sur l'actuel hippodrome. L'hippodrome, c'était aussi un champ de manœuvre pour un régiment de cavalerie qui était stationné à Kellermann. Et puis, vous avez donc trois pilotes, dont un certain René Barrier, originaire de Châteaudun, mais aussi un certain Roland Garros, qui font des démonstrations aériennes pendant trois jours sur cet hippodrome, devant à peu près entre 10 et 15 000 spectateurs sur les trois jours. Donc c'est vraiment le premier acte de l'aviation à Châteaudun. Et surtout, ça se passe sur un lieu qui deviendra plus tard la BA 279.
Oui, parce que René Barrier, après, a fait partie d'un cirque aux USA, c'est ça?
Alors, il y a René Barrier, mais il y a aussi Roland Garros, et puis il y avait un troisième pilote dont j'ai perdu le nom, qui est d'origine suisse. Ouais. En fait, ils sont partis aux États-Unis. Voilà, Audemars. Et donc, ils sont partis aux États-Unis pour faire des démonstrations aériennes avant la Première Guerre mondiale. Ça a attiré des foules. On a retrouvé des photos dans les archives. Et effectivement, c'est l'époque des pionniers de l'aviation. Les machines se développent. La première fois que l'homme peut voler, le rêve d'Icare se réalise. Donc, pour la plupart des gens, et notamment sur Châteaudun, la population vient assister à ça. C'est assez impressionnant, effectivement.
Mais est-ce que le premier vol d'un avion n'a pas eu lieu justement en Eure-et-Loir?
Alors, le premier vol, en fait, c'est 1908 ou 1909. C'est un certain Blériot qui fait un aller-retour autour de Janville et de Toury. Alors ça, on est en pleine Beauce. Sinon, pour Châteaudun, il faut remonter à 1910. C'est le comte de Malinsky, si je me souviens bien. Je vais retrouver. Malinsky, qui se pose au niveau de la guinguette à Châteaudun. Ce monsieur donc se pose, passe la nuit au régiment de cavalerie à Kellermann et repart le lendemain devant une foule aussi tout aussi importante. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, vous allez avoir des pilotes civils comme militaires qui viennent du Buc, enfin l'actuelle ville à Coublay, et même de Chartres, qui vont passer à Châteaudun, qui vont se poser à Châteaudun, et très rapidement, ils vont expliquer qu'il y a un potentiel sur ce site, ce qui fait que dès 1914, Châteaudun est considéré comme un camp d'aviation. Il fait partie d'un camp d'aviation ça fait partie de la base aérienne de Chartres, qui forme des pilotes de chasse. Et donc il y a un parcours à faire pour obtenir un brevet de pilote. C'est on part de Chartres, on va à Châteaudun et on remonte direction Ville à Coublay pour revenir à Chartres. Voilà.
Histoire et mémoire. Jean-Claude Galerne sur Radio Grand Ciel.
Châteaudun, indiscutablement, est lié à l'évolution de l'aviation.
Ah oui, dès le début de l'aviation, en fait, on s'aperçoit que la ville participe pleinement à son évolution. Ce qui fait que même pendant la Première Guerre mondiale, vous allez avoir un vrai camp, ce qu'on appelle le camp d'aviation, qui va permettre. Alors, on va avoir des pilotes français, bien sûr, qui vont être brevetés, mais aussi des pilotes américains, des pilotes canadiens. Qui vont passer à Châteaudun. J'ai pas trouvé énormément de photos. Par contre, dans les articles de presse, de la presse locale, on entend parler d'accidents aériens, on entend parler d'alerte, comme en 1918 ou en mars 1918, où il y a une alerte aux Zeppelins. allemand qui aurait survolé la région. Donc il y a une alerte dans toute la région. Au final, bon, le Zeppelin a certainement survolé Paris, mais l'alerte s'est diffusée tout autour. Il y avait des postes de DCA, il y avait des toiles de tente pour les aviateurs et les mécaniciens. Il y avait les premiers hangars en bois. Voilà, donc il y avait vraiment des premières infrastructures sur ce champ d'aviation qui, à l'origine, était un champ de manœuvre pour la cavalerie.
Parce que ce terme camp aviation est intéressant, parce que même dans les années 50, 60, peut-être même 70, les gens disaient « je travaillais au camp d'aviation ».
Effectivement, et c'est même resté tardivement. J'ai été militaire sur la base quelques temps, et chez les Dunois, même dans ma famille, hein, sur Châteaudun, on disait encore le camp d'aviation, pour vous dire. C'est une expression qui est restée assez longtemps. Alors il y a camp d'aviation, champ de manœuvre, base aérienne. Donc ça a porté plusieurs noms. Il faut savoir que notamment le terme de base aérienne, c'est un statut bien particulier qui est apparu dans les années 50, à la fin des années 50.
C'est apparu au moment où il y a eu la fusion de Châteauroux, toutes ces choses. Non ?
Alors effectivement, en fait, il faut remonter à l'histoire de ce site. Le camp d'aviation tel qu'on le connaît maintenant, sa vraie origine, c'est les années 30. Vous avez l'armée de l'air qui est née en 1934. Et donc il y a besoin donc de bases d'écoles, il y a des bases logistiques, des bases pour les escadrons de chasse, de bombardement et autres. Et Châteaudun est choisi comme base logistique. Et donc vous avez l'entrepôt de l'air numéro 601 qui s'installe. On ne parle pas de base aérienne, on parle d'entrepôt de l'air 601. Et avec justement donc ces grands hangars qui vont être fabriqués. Et là on parle, c'est pas le terme de base aérienne encore, hein. C'est vraiment camp d'aviation ou dépôt, entrepôt de l'armée de l'air 601.
Oui, parce que donc, à partir de 1900, des années 30, quand beaucoup d'avions vont arriver, on peut dire, beaucoup de Marcel Bloch, évidemment.
Effectivement, tout l'intérêt de ce dépôt, alors il réside dans le fait que l'armée de l'air avait besoin de stock. Donc, elle avait besoin de stocker des avions pas en pièces détachées, mais en partie montées. Donc les avions sortaient des usines et étaient envoyés dans des entrepôts. Dans ces entrepôts, il fallait monter l'armement, régler tout un tas de matériel sur l'appareil avant d'être envoyé en unité. Ce qui fait que c'était l'un des plus grands dépôts de l'armée de l'air en France. Il faut savoir qu'il y avait deux bâtiments dont il en subsiste un seul aujourd'hui, qu'on appelle le Poulmic. C'est un bâtiment, en fait, l'architecture est bien particulière, c'est en forme de parapluie. Et ces bâtiments étaient considérés comme les bâtiments aéronautiques les plus grands d'Europe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pas étonnant que les Allemands aient choisi Châteaudun comme cible dès le 12 mai 1940, parce qu'ils savaient qu'il y avait à peu près entre 300 et 400 appareils stockés. Et c'était des réserves pour les pertes de l'armée française, de l'armée de l'air en 1939-1940.
Oui, parce qu'on avait recruté une armée de civils pour remettre en état, c'est Marcel Bloch. J'ai connu quelques civils d'ailleurs qui travaillaient en 1937-38 pour remettre tout ça en état parce qu'ils n'étaient pas en état de voler.
Tout à fait. Alors, ce qui est assez caractéristique, c'est qu'il y avait des militaires, hein, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de civils qui travaillaient et jusqu'à la fin de la base aérienne. Hein, beaucoup de civils travaillaient sur le site. Généralement, les mécaniciens étaient vraiment des mécaniciens militaires. Mais après, pour tout le reste, tout ce qui était lié, que ce soit le stockage, l'administration et le soutien, c'était beaucoup de civils, effectivement. Et beaucoup de gens, d'habitants de Châteaudun et du Dunois ont travaillé là-bas. C'était un vivier d'emploi pour le secteur.
Parce que même après la guerre, il y a eu la SCAN après la guerre.
Donc oui, alors effectivement, ça fait aussi partie de l'histoire de cette base. Mais effectivement, les civils, c'est... D'ailleurs, je les rencontre hein, lors de ma dernière conférence au mois de janvier, des anciens qui disent « Oui, moi j'étais civil, j'avais une entreprise, je travaillais pour la base. » À la fois, c'était un pourvoyeur d'emploi, mais c'était aussi un très gros client. La base était un très gros client pour les entreprises locales. Et c'est très grosse perte pour Châteaudun et le bassin d'emploi de Châteaudun, effectivement.
Radio Grand Ciel, 107 à Châteaudun.
Et comment cette base a vécu la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, mes recherches ont été très très importantes sur cette période. Il faut savoir que cette base aérienne, ça a été à la fois une base logistique et stratégique pour l'armée de l'air française en 39-40, mais aussi pour les Allemands. Très rapidement, les Allemands occupent le site. Ils aménagent, ils font beaucoup d'installations. Par exemple, les pistes bétonnées, ce sont les pistes allemandes. Ce sont les Allemands qui ont bétonné les pistes en croix.
La piste sud-ouest, oui.
Ah, les deux pistes.
Les deux pistes.
Les deux pistes. Alors, la piste est-ouest a été refaite dans les années 50, mais à l'origine, c'est allemand. Les Français utilisaient une piste en herbe. Mais les Allemands vont en faire une base de bombardiers lourds qui vont être utilisés notamment pendant le Blitz, pendant le bombardement de l'Angleterre entre juillet et septembre 1940. Il existe aujourd'hui beaucoup de vestiges de la présence des Allemands. Malheureusement, ces vestiges vont être détruits puisqu'il va y avoir des panneaux photovoltaïques qui vont être implantés, d'autres industries. Nous, on a demandé au titre de l'association Mémoire et Histoire à en conserver un ou deux pour faire des visites pour les scolaires. Donc on va voir si la demande va être exaucée. On attend, on ne sait pas. Mais effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une base très très importante. Les Allemands font une base de bombardiers, une base logistique. Au moment du débarquement de Normandie, la base est à peu près à 200 km du front d'invasion, comme on disait à l'époque. Et les Allemands vont s'en servir pour installer des escadrons de chasse, et notamment de chasse de nuit. Et c'est pour ça que vous allez avoir énormément d'appareils britanniques, notamment des Lancaster, qui vont être abattus tout autour de Châteaudun, puisque vous allez avoir des As, donc des très bons pilotes allemands, qui vont abattre entre juin et juillet 1944 une vingtaine, voire plus, d'avions britanniques. Beaucoup de ces avions vont se crasher avec l'équipage entièrement tué. D'autres des pilotes vont pouvoir sauter et être récupérés par la résistance et envoyés notamment directement vers le camp de Friedwald. Mais c'est une base très importante et on le sait pas aussi, c'est une base qui va accueillir les premiers avions à réaction de la Luftwaffe, donc c'est l'armée de l'air allemande de l'époque. Vous allez avoir 6 avions à réaction des Messerschmitt 262 qui vont rester là une quinzaine de jours. Alors on ne sait pas trop s'ils vont aller sur le front de Normandie, s'ils vont opérer, mais bon, ils vont se poser à Châteaudun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Alliés, les Anglo-Américains, vont compieusement bombarder la base. Il va y avoir une quinzaine de bombardements lourds de la base et quasiment, à partir de mai jusqu'à août 1944, des bombardements quotidiens. Des attaques quotidiennes sur la base et sur Châteaudun et les environs, bien sûr, occasionnant énormément de victimes.
Et justement, il y avait cette escadrille de chasse, là. Je crois qu'il y avait Meyer, justement, qui était un des pilotes des As allemands, là. Et je ne sais pas s'il n'était pas la tête, justement, du JG2
à Châteaudun. Alors, cette fameuse unité, c'est les NJG2, c'est Nart Jäger. Donc c'est la chasse de nuit numéro 2, l'escadron de chasse de nuit numéro 2. Alors il y a un as qui s'appelle Heinz Rocker, qui va avoir, je crois, il va terminer la guerre avec 65 appareils abattus, dont une bonne dizaine autour de Châteaudun, effectivement. Et donc ces pilotes, c'était vraiment des as équipés de radars sur le nez de l'appareil. Donc c'était vraiment une technologie de pointe à l'époque. Mais c'est pas le seul, hein. Vous allez avoir des avions, des Condors, les Fokker 200, c'est des avions les plus grands de l'époque, des quadrimoteurs allemands qui vont être présents sur Châteaudun. Tout un tas d'unités allemandes qui vont stationner sur Châteaudun, effectivement.
On a eu les bombardiers qui ont décollé donc pour aller bombarder l'Angleterre.
Tout à fait.
Donc,
dès juillet 1940, ouais. Ils partent de Châteaudun.
Il y avait un arbre que je connaissais qui avait été coupé au décollage.
Disons que les avions étaient alourdis par les bombes, donc voilà. ils ont même dû rabattre le clocher de Lutzendunois, dans ce qui se raconte, parce que c'était dans l'axe d'atterrissage et le clocher était trop haut. Mais les habitants de Châteaudun, certains que j'ai connus, me racontaient que les avions partaient à une quinzaine, une vingtaine et revenaient beaucoup moins nombreux en revenant d'Angleterre, et que, pour la petite histoire, donc il y avait des cérémonies pour enterrer les pilotes tués au cimetière du Chandé, donc en grande pompe,
fait,
les officiers. Sauf que les...
Tout ils près allaient, de la GSP, là.
Oui. C'est ça, près de la GSP, et au cimetière du Chandé. Et donc, parfois, les fleuristes venaient récupérer les fleurs la nuit, des couronnes de fleurs qui étaient déposées, pour les revendre aux Allemands lors du prochain enterrement.
Les pilotes étaient logés au Saint-Louis.
Exactement.
Et donc, il y avait Les jeunes femmes qui travaillaient au Saint-Louis disaient, bon, je connais très bien le sujet, et ils faisaient une fête pas possible, champagne, etc., et ils disaient aux serveuses, demain on sera peut-être plus là.
Exactement, c'était ça. Donc ils ont profité jusqu'au bout, tout voilà. À fait. C'est des choses qu'on a beaucoup oubliées, parce que c'était l'occupation, c'était les Allemands, mais effectivement, ils ont eu un impact assez important sur l'histoire de cette base entre 1940 et 1944. Et puis enfin, la dernière période de cette base, c'est l'occupation des Américains. Dès la libération et pendant un an, vous allez avoir une unité assez prestigieuse de l'armée de l'air américaine. Alors à l'époque, on dit l'US Army Air Force. C'est le 439e Troop Carrier Group. C'est un groupe de transporteurs sur Dakota, C-47, qui transportait les parachutistes et les planeurs pour ravitailler les forces américaines à Bastogne, en Belgique, et aussi lors de la dernière grande opération aéroportée qui s'appelle l'opération Varsity en mars 1945. Et là, la population a très très bien accueilli ces militaires américains. Du reste, pour la petite histoire, nous on a rencontré en 2013 un vétéran américain qui est revenu habiter à Châteaudun. Il s'appelait James Gamil. Il est décédé en 2019 et il est devenu notre ami. Et il nous a légué toutes ses photos prises à l'époque. Et c'était impressionnant. On a des photos, on a des campements américains autour de la base, mais sur des centaines de mètres à la ronde. Une partie des Américains logés aussi à la caserne Kellerman. Et pour Noël, Noël 44, beaucoup de militaires américains avaient été invités par la population de Châteaudun pour les accueillir pour fêter le réveillon. Et il y a eu des liens qui se sont créés, même des histoires d'amour qui se sont créées sur Châteaudun avec les Américains. Et même 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, les Américains revenaient sur Châteaudun pour retrouver le lieu où ils avaient séjourné.
Alors ils sont repartis en quelle année, les Américains ?
En août 1945. Officiellement, la base est rendue aux Français en septembre 1945.
Il n'y avait plus du tout d'Américains, Châteaudun ?
Non, ils sont partis, l'ordre était de repartir. Certains étaient sur Paris, d'autres en Allemagne, mais la base avait été redonnée aux Français. Et là, les Français, l'armée de l'air, reprend des travaux, il faut désobuser, il faut réparer les hangars. Il y avait des quantités de matériel aéronautique abandonné, donc ça fallait les enterrer. Enfin voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de travail, refaire les pistes, enfin notamment la piste principale. Par contre, ce qui a été conservé, c'est l'autre piste qui s'appelle la piste allemande, qui a gardé son nom jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'à la fermeture.
Voilà. Mais ce que vous disiez tout à l'heure justement, que les avions étaient surchargés, et moi je me souviens de la route qui va à Orléans. La clôture est
oui.
Beaucoup plus basse,
tout à fait.
Sur à peu près 2 km.
C'est ça, effectivement. Ouais. Alors c'est pareil, même à une époque, certains endroits, notamment au sud de la base, il n'y avait pas de clôture. Et les clôtures ont été faites après-guerre avec des grilles pour les aérodromes britanniques. Donc tout ça, c'est du matériel de récupération.
Ah, oui.
Et donc ils ont fait avec ça. Une clôture qui existe toujours d'ailleurs, de nos jours.
Histoire et mémoire. Jean-Claude Galerne sur Radio Grand Ciel.
Mais bon, actuellement, les pistes, si on les sondait, je crois qu'il y a encore beaucoup de brouettes et de pelles.
Oui. Alors, je connais bien cette histoire. Mais effectivement, après les bombardements alliés, les Allemands donc recrutaient, enfin, c'est même pas recruter, hein, ils allaient chercher manu militari des habitants de la région. Ils allaient jusqu'à Brou, hein, chercher des gens, pour reboucher les trous. Sauf que les civils qui travaillaient, parfois jetaient la brouette et la pelle dans les trous, ce qui fait qu'il fallait retrouver du matériel. C'était une forme de résistance.
Quoi. Quand il y avait alerte.
Tout à fait. Tout le monde allait se cacher, mais c'est une forme de résistance, on va dire, de mécontentement face à l'occupant. Mais c'est des histoires qu'on a entendu parler, ça c'est sûr.
Alors, donc on a vu, par exemple, dans les années 50, donc développement important de cette base-là. Et justement, moi, je me souviens, il y a eu des fêtes d'aviation extrêmement importantes. La première dans les années 50, d'ailleurs.
Oui, ça, en fait, c'est des meetings aériens, hein, tout simplement.
Oui, tout à fait. Voilà, avec l'exposition d'appareils.
Tout à fait. Et on a retrouvé des vidéos en couleur des années 50 où on voit les habitants de Châteaudun venir faire leur premier baptême de l'air.
Ouais.
C'était un rendez-vous très important. Le dernier, c'est 2013, si je me souviens bien, le dernier meeting qui avait attiré plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes, c'est absolument énorme. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que la base, autant c'est un site militaire, hein, purement et simplement, mais c'est aussi une ville dans la ville. On oublie un peu le rôle social de cette base. pour l'avoir connu, hein, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient, dont le papa ou la maman travaillaient sur la base. La population, les militaires ou leurs familles étaient dans les associations sur Châteaudun, consommaient, les enfants allaient à l'école, que ce soit l'école publique ou l'école privée. C'était vraiment, il y avait vraiment une vie que la fermeture de la base a... Enfin, pas complètement fait disparaître, mais ça a apporté un vrai coup à la vie au sein de Châteaudun, effectivement.
Oui, parce qu'on l'a gardé jusqu'à la fin, pratiquement. On a quand même gardé des unités opérationnelles, puisque à l'époque, il y avait encore... il y avait un des pilotes que j'ai bien connu qui était en Irak, donc qui volait sur Jaguar.
C'est ça.
Puisqu'il ne pouvait pas voler sur Mirage.
Oui.
Et qui avait bombardé en Irak. Il a fait partie des 8 pilotes français qui étaient...
Qui avaient été touchés.
Ouais, qui ont été en Irak, quoi.
Oui.
Et donc, il est revenu après. Bon, on a eu l'occasion souvent d'échanger. Mais donc, on était une base opérationnelle. On avait des hommes de talent.
Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'armée de l'air, c'est que vous avez... Il n'y a pas que le métier de pilote. Il y a tout un tas de métiers, mécanicien aéronautique et autres. Il faut savoir que les unités sont restées jusqu'en 2021. Fin 2021, les unités opérationnelles. Après, c'était des militaires qui étaient là pour justement vider le site. Parce que l'armée de l'air a récupéré tout ce qu'il pouvait avant de céder le site à la communauté de communes du Grand Châteaudun. Mais moi, j'ai connu des militaires qui nous ont aidés justement, parce que je suis président d'association, et on s'est installé sur la base pour créer un musée sur l'histoire de ce site militaire majeur. Et donc, on a participé d'un groupe qui s'occupait du patrimoine pour repérer toutes les zones, tous les vestiges, faire des photos. On a retrouvé encore des inscriptions en allemand dans certains hangars. On a retrouvé des petits objets au sol, comme des plaques d'identité de pilotes américains. Tout un tas de petits objets qui seront présentés dans le futur musée, si ça arrive à son terme, bien sûr.
Parce qu'on a eu quand même des patrons de base, on peut dire, des pilotes. Par exemple, le colonel Fournier situé à Châteaudun, sur un Fougas.
C'est ça. Alors d'ailleurs, donc tout ça apparaîtra dans le tome 2 du livre sur l'histoire de la base de Châteaudun. Là, le premier tome s'est arrêté à 1945, mais le tome 2, on va justement parler de ces différents colonels, des figures emblématiques, colonel Fournier qui s'est tué effectivement sur Fougas Magister. Et puis, on va parler des différentes unités, de l'implication de la base aérienne et sans l'oubli dans les événements internationaux. On sait par exemple que la base de Châteaudun était une base de stockage, mais c'était une base aussi où on vendait des appareils aux pays étrangers. Et notamment, il y avait eu un embargo sur la vente d'armes sur Israël. Et j'ai retrouvé des articles de presse et des archives qui parlent justement de ces avions, de ces Mirages qui étaient restés à Châteaudun sous bonne surveillance pour pas que ces avions disparaissent comme les fameuses vedettes de Cherbourg qui ont disparu une nuit pour direction Israël.
La base était très en alerte à ce moment-là.
Tout à fait.
Tout le monde était sur le pied de guerre.
C'est ça, exactement. Ouais. Et on a quelques photos de ça. D'ailleurs, pour les curieux, si vous allez au cimetière du Chandet, vous avez une tombe un peu particulière. Vous avez un équipage de pilotes britanniques de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un pilote un peu particulier, avec comme symbole sur sa tombe une étoile de David. Et en fait, ce monsieur était pilote de convoyage et il était chargé d'emmener les avions vendus par la France à Israël vers Israël. Et donc, il est décédé lors d'un accident aérien. Son avion, c'était un Mosquito qui s'est crashé du côté... c'est Romilly-sur-Aigre, justement. Et sa tombe est restée à Châteaudun. Et c'est que très récemment qu'on a connu l'histoire de ce monsieur.
Mmh.
Voilà, il est décédé en 1947. Voilà. Donc, je fais des recherches dessus pour avoir des photos de ce monsieur, mais un peu difficile d'avoir des informations, mais on a quelques... voilà. Et à l'époque, ces obsèques s'étaient déroulées dans un hangar sur la base avec, si je me souviens bien, l'ambassadeur d'Israël qui était venu. Enfin voilà, il y avait eu... Mais donc, effectivement, la base a participé aux grands événements internationaux, du moins à certains.
Mais la base avait un rôle également donc d'appui civil, parce que je me souviens, lorsqu'il y avait des incendies, on appelait les pompiers de la base. Lorsqu'il y avait des accidents, on appelait la grue de la base.
C'est ça.
Donc il y avait une logistique.
Ah oui, vous aviez service de santé, les pompiers, les services techniques, tout ce qui était réseau, informatique, tout ce qui était soutien logistique. Enfin, vraiment, on était vraiment dans... C'était une ville dans la ville. C'est très clairement. On avait un mess officier, le mess mixte. C'était assez impressionnant. Hein. 1200 personnes... les dernières années, on a été jusqu'à 2000 du temps du service militaire. Alors là, vous me parliez des pompiers, j'ai une petite anecdote, c'était en 2011, je crois, ou 2010. Vous avez l'incendie d'un bâtiment qui s'appelle le CGMTA. Sauf que les pompiers, c'est les pompiers de l'armée de l'air, de la base qui arrivent, sauf que, manque de bol, les tuyaux étaient trop courts. Donc ce sont les pompiers de la ville de Châteaudun qui vont éteindre l'incendie sur le site. Bon, faisait un peu grise mine, hein. Ils ont été un peu chahutés, les pompiers de la base, mais voilà, c'est... Les anecdotes, il y en avait plein. Vous parlez à un militaire, il vous sortira, il vous parlera de, d'une, merci, il vous parlera d'une quantité d'anecdotes entre civils, militaires et autres.
Il y avait même la police de l'air.
Et oui, la gendarmerie de l'air, exactement.
Gendarmerie de l'air, qui arrêtait quelquefois les véhicules.
Ah oui,
à l'extérieur. Hein.
Oui, oui, ils arrêtaient. Alors, ils arrêtaient, ils surveillaient quand même les alentours de la base, le parking, et puis aussi à l'intérieur de la base. Hein. Ouais. J'ai le souvenir d'un gendarme qui a collé une prune à sa propre femme qui était mal garée. Et je tairai le nom de ce monsieur, mais effectivement, ça a fait beaucoup rire sur le site de la base. Hein. Je me souviens très bien de ça.
Pour Châteaudun, bon. Ça a été donc un élément de développement social très important,
ah, tout à fait.
Très important, de développement technique aussi très important, hein, parce que bon, on avait besoin de beaucoup de technicité quand même.
Oui, l'aéronautique, ouais. c'est un métier de spécialiste. Donc vous avez tous les types de métiers représentés, hein, l'avionique, mécanicien avion, vecteur, enfin c'est vraiment très large, hein, je pourrais pas tout citer, mais effectivement c'est vraiment un pourvoyeur d'emplois et un certain nombre de Dunois ont embrassé la carrière de l'armée de l'air parce que vous aviez une base à côté. Et ce qui pose problème maintenant, c'est que l'armée n'est plus représentée sur notre territoire. Ça pose un questionnement en termes d'état-nation, de cohésion aussi. Hein, c'est un vrai problème. Hein. Même en haut niveau, on en parle, hein, de la fermeture des casernes ou des bases militaires, ça a eu un impact sur la société civile, effectivement.
Oui, donc. Puis de toute façon, nous étions à quelques minutes de Paris, puisque je crois qu'entre le moment où on a entendu les avions décoller pour le 14 juillet et quelques minutes après, nous les voyons défiler au-dessus de la
Ah oui, on est à 150 km au sud de Paris, donc c'est sûr que pour un Mirage, un Rafale, c'est assez rapide, en un quart d'heure, ils sont sur Paris.
Hein,
donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant les 14 juillet, la base était, comme la piste était dans l'axe des Champs-Élysées, c'était le même axe, hein, donc c'était les entraînements, la répétition se faisait à Châteaudun. Donc on parlait de Châteaudun dans toute la France à ce moment-là. C'est fini désormais.
L'aviation civile s'est servie de Châteaudun aussi parce que je me souviens qu'à l'époque, donc les avions, la Caravelle notamment, avaient fait des essais à Châteaudun.
Alors ça, je ne savais pas.
Ils se posaient et redécollaient.
Ouais, effectivement, des appareils emblématiques hein, sont passés par Châteaudun.
À Châteaudun voilà.
Quasiment tous les appareils de l'armée de l'air sont passés par Châteaudun. Quasiment tous. C'est ce qui fait un peu la richesse de cette base. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a été appelés en tant qu'association pour monter un musée, pour laisser un souvenir, puisque c'est quand même une base emblématique.
Ben merci Ludovic. Et puis, on sera très attentif donc, à ce musée d'une part et au deuxième tome d'autre
voilà,
part.
Voilà, certainement en 2024-2025. Voilà.
Je vois le temps qui passe sur ta peau. Je vois des gens sourire, aujourd'hui il fait beau. Toi il t'en faut bien moins pour avoir le cœur chaud. Oh, oh, qu'il est doux, oh, qu'il est doux, qu'il est doux de rêver. Oh, oh, qu'il est doux, oh, qu'il est doux, qu'il est doux de rêver. Tu crois te souvenir?